À voix nue. Cette semaine, Maïlys Besserie rencontre Catherine Clément. Ce soir, écriture et pensée d'ailleurs.
Bonsoir Catherine Clément.
Bonsoir Maëlys.
Alors hier soir, nous étions bien sûr en Inde. Je dis bien sûr parce que ça a été très important dans vos lectures, dans votre écriture, mais aussi dans votre vie.
Dans ma vie surtout.
Et après l'Inde, il y a eu le Sénégal.
Entre deux, il y a eu l'Autriche.
Entre les deux, il y a eu l'Autriche. Pour parler de l'Afrique et du Sénégal, comment est-ce que, justement, la pensée de Lévi-Strauss, puisque vous avez commencé à l'évoquer, la pensée structuraliste, vous a accompagné là-bas?
C'est simple. Il y a des castes en Afrique, figurez-vous. En tout cas, au Sénégal, il y a des castes nommées comme telles. Alors, c'est très dissimulé, c'est un grand secret. Aucun homme politique n'accepte d'en parler, aucune femme politique non plus, mais il y a aussi beaucoup d'ethnologues quand même au Sénégal. Et donc on voit dans les livres d'ethnologie que, alors ça ne se présente pas comme l'Inde, on dit que certaines personnes sont castées. Par exemple, le griot, Youssou N'Dour, est casté. Youssou N'Dour est de la caste des griots, il est donc casté, donc inférieur. Il est très prestigieux, mais inférieur. On ne l'épouse pas. Le forgeron, c'est pareil, il peut être joaillier, il peut être Bulgarie, mais on ne l'épouse pas, c'est incasté. Et tous les autres sont hommes ou femmes libres.
On ne l'épouse pas quand on est quoi?
Quand on est homme ou femme libre. Voilà, il y a un clivage absolu. Et c'est pour ça que ça, on a vu ça à l'œuvre. On a vu ça à l'œuvre quand même. On a vu un Premier ministre qui était absolument ravi d'avoir épousé une Norvégienne très blonde, ou une Danoise, je ne sais plus, parce qu'au moins on lui fichait la paix avec homme et femme libre. Il était fils de joaillier. Il ne pouvait pas épouser une Sénégalaise.
Vous, vos amis diplomates, Catherine Clément, et au premier rang desquels Dominique de Villepin, vous avez dit « Ah, tant que tu n'as pas connu l'Afrique,
oui, c'est Dominique qui m'a dit.
Tu ne sais rien. »
Il faut expliquer, Dominique de Villepin était le numéro 2 quand mon compagnon était ambassadeur en Inde. Donc nous avons quasiment vécu dans le même milieu, mariné dans le même milieu pendant 4 ans.
Et vous avez eu tout le long des amitiés de gauche et de droite, de toute manière.
Oui, mais ça, à l'étranger, surtout très loin, ça ne compte absolument pas. Ça disparaît totalement.
Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire de Dakar, justement, au moment où vous y arrivez, vous, en tant que compagne d'ambassadeur, et avec en tête, justement, la pensée de Lévi-Strauss, la pensée aussi de l'Inde?
Je commence par me cogner à l'intellectuel principal de l'époque, qui maintenant est à Columbia, qui s'appelle Suleiman Bachir Diagne, que je découvre quand il est en train de faire une leçon, et il fait une leçon althusserienne, sur Althusser, dans je ne sais plus quel cercle de pensée, à Dakar. Donc je me retrouve face à un althusserien, qui est devenu très vite un de mes meilleurs amis sénégalais. Donc je me suis retrouvé dans le bain. Il y a énormément de normaliens en Afrique. Et surtout, il y a beaucoup, beaucoup de mes anciens étudiants. Les anciens étudiants de la Sorbonne d'avant. J'ai fait un séminaire de troisième cycle bénévole à l'université de Dakar, chez Kanta Diop. Et il y avait, qui était devenu inspecteur d'académie, des anciens étudiants à moi. Donc je me suis retrouvé projeté dans un truc bizarre, où j'étais encore toute jeune fille en train d'enseigner à des grands gaillards. Et puis la pensée althusser qui régnait à cause de Suleiman Bachir Diagne, évidemment. Et puis, ce qu'on en a fait tous les deux, je vais vous raconter ce qu'on en a fait. Ce qu'on en a fait tous les deux, chemin faisant. J'ai fait étudier le Code Noir dans ce séminaire. Hein. Le Code Noir, promulgué par Colbert et Louis XIV, bien entendu, sur ordre de Louis XIV, en 1685. Le Code Noir, c'est le règlement pour traiter les esclaves nègres dans les Caraïbes. Et j'ai demandé à Suleiman Bachir Diagne de lire le premier article du Code Noir. Et il ne s'y attendait plus. Il avait oublié et il a lu le premier article. Et le premier article du Code Noir pour le traitement des esclaves nègres, c'est « Commencer par chasser tous les juifs de France ». Alors on a réfléchi beaucoup là-dessus.
Il y a eu plusieurs rencontres. Vous avez évoqué Suleiman Bachir Diagne. Il y a aussi Abdou Diouf.
Mais ça tout le
Alors,
temps.
Alors Premier ministre,
Abdou Diouf, tout
puis
le temps.
Successeur de Senghor. Qu'est-ce que vous pouvez dire de votre amitié avec Abdou Diouf et la rencontre que vous en faites? À cette époque-là, il est encore Premier ministre?
Oui, non, il est président.
Il est président?
Il était président. Que c'est l'idéal musulman incarné, comme Suleiman Bachir Diagne, comme beaucoup de mes amis musulmans, de soufis. Voilà. C'est le meilleur musulman possible. L'idéal du musulman. Celui qui lit l'évangile le soir. Gandhi faisait ça. Le Mahatma Gandhi faisait ça. Mais lui, il le faisait tout le temps. Il avait une femme catholique. Il avait une femme catholique et on lisait l'évangile.
Donc c'est cette connaissance multiple des religions.
C'est autre chose. C'est l'accès direct aux religieux. Pas dans une église. Il m'est arrivé d'entrer dans des églises, mais j'ai surtout vu des messes en plein air en Afrique. Les messes en plein air, c'est une centaine de milliers quand même, hein, avec des crises de transe et un service préposé préventivement, comme pour le 14 juillet, avec des ambulances qui rappliquent, etc. C'est un accès direct. Un accès direct, alors, au divin, je ne vais pas dire au dieu, parce qu'il y a des centaines de dieux au Sénégal, il y en a beaucoup, hein, beaucoup, beaucoup. Ils sont peu connus, mais il y en a beaucoup. Il n'y en a pas 300 000 comme en Inde, ou comme on dit qu'il y en a, mais il y en a quand même suffisamment pour faire masse. Mais il y avait l'accès direct au... Je n'ai pas trouvé ça en France, un peu en mai 68, ça paraît bizarre hein, de dire ça, dans certains moments de foule, un tout petit peu quand Jean Moulin est entré au Panthéon, voilà, un petit peu ça, quelques moments de la fête de l'Huma.
Mais c'est quoi, c'est la transe ou c'est l'accès direct?
C'est l'accès direct, la transe c'est tout à fait autre chose, la transe on perd l'esprit quand même. La transe on n'est plus soi-même, je n'ai jamais voulu tomber en transe. Ça, je sais que ça me couperait l'écriture. Je ne sais pas comment je le sais, mais ça me couperait l'écriture. Et Dieu sait qu'ils ont été nombreux, des tambourineurs sénégalais, qui ont voulu me faire tomber en transe et qui me pourchassaient avec le petit tambour des sels. Celui qui est très, très aigu. Et à chacun, je disais, mais ne me mettez pas en transe. Je pourrais tomber en transe, mais vous me mettez au chômage. Ah, ça, ils arrêtaient.
Qu'est-ce qui vous intéressait, Catherine Clément, dans l'accès direct, vous qui êtes athée? Alors certes, il y a plus de risque de la religion.
Mais ça m'intéresse précisément parce que je suis athée. Qu'est-ce que c'est que ce truc dont les hommes n'arrivent pas à se débarrasser, qui fait un dégât si terrible, qui cause des millions de morts, qui est toujours là, et qu'on va appeler les dieux, Dieu le divin. J'aime bien les dieux. Quand il y en a beaucoup, c'est mieux qu'un seul. Un seul, je trouve ça terrible.
À votre retour en France, justement, vous prolongez cette réflexion-là. Vous faites partie de l'Université populaire du Quai Branly.
Ah non, je la dirige.
Vous dirigez l'Université populaire du Quai Branly. Du musée du Quai Branly. Et l'un de vos dadas, c'est justement de partager cette pensée pacifique, d'essayer de transmettre ce que vous avez pu comprendre de cette pensée du Pacifique, ce que vous appelez la pensée du Pacifique.
Vous entendez l'océan Pacifique ou vous entendez le pacifisme ?
Le pacifisme.
Le pacifisme, oui, parce que j'ai aussi fait des efforts pour faire connaître la pensée des habitants de l'océan Pacifique. Par exemple, le Haka, c'est une pensée. Ça n'a pas l'air, c'est une pensée. Oui, avec Stéphane Martin, qui est toujours le président, directeur général de ce musée, on s'était dit, tous les deux, Stéphane Martin est un jeune homme par rapport à moi, il a 20 ans de moins, on s'était dit qu'il fallait commencer par une histoire mondiale de la colonisation suivie d'une histoire mondiale de la décolonisation. La décolonisation du Danemark, par exemple, elle n'est pas très connue. Celle des Hollandais, non plus. Toutes les décolonisations. Et en même temps, je lui ai offert de travailler sur la totalité de la Déclaration universelle des droits de l'homme, celle de ce qu'on appelle maintenant les droits humains, à cause des femmes, celle de 1948, et ça a pris 6 ans. On a fait chaque machin. Chaque article, ça a pris des années. C'est ça que vous appelez le pacifisme. C'est la Déclaration universelle des droits de l'homme, épluchée et augmentée, parce qu'il y a maintenant une Déclaration des droits de l'enfant. Et il y a surtout, en 2007, quelque chose qui est très contradictoire, qui est une Déclaration des droits des peuples autochtones, qui leur donne des droits contradictoires avec la première Déclaration. Par exemple, les peuples autochtones ont le droit de posséder des bouts d'océan, des zones de pêche, alors qu'ils ne sont pas des États. Ils sont un groupe, mais pas organisé comme un État. Normalement, seuls les États possèdent des zones de pêche. Par exemple, avec les droits de priorité, ils ont retrouvé tous leurs droits autochtones, et ça entre en collision directe avec les pays industrialisés, direct.
Donc il y a eu une approche théorique au départ, ensuite il y a eu une approche...
Pas théorique, c'est...
Quand si, on... si, la découverte de la pensée de Lévi-Strauss, c'est une approche théorique. Ah, puis il y a eu une approche, il y a eu l'expérimentation, les voyages, les séjours, vivre à l'étranger, vivre ailleurs, et puis un retour à une pensée transmise.
Catherine Clément. Un retour à une pensée transmise, un petit point sur la méthode, ça va peut-être prendre un petit peu de temps, mais c'est quoi cette méthode? Je suis en train de travailler pour l'instant sur Histoire de Lynx, qui est le dernier des livres sur les mythes qu'a écrit Lévi-Strauss, qui était déjà très âgé à l'époque. Ça clôt l'ensemble des mythologiques. Les mythologiques, ce sont les mythologies, je le répète, de l'Amérique du Nord et de l'Amérique du Sud, des Amérindiens. Hein. Alors là, l'histoire se passe chez les Amérindiens, tous, de Colombie-Britannique, donc au Canada, au-dessus de Vancouver. Mais ça s'étale, ça va jusqu'aux Inuits, qu'à l'époque, d'ailleurs, il appelait Esquimaux. Ça fait drôle parce que maintenant, c'est interdit d'appeler les Inuits Esquimaux. Ils ont demandé officiellement qu'on les appelle plus Esquimaux. Et donc, il y a deux héros. Il y a un lynx, qui est, vous connaissez le lynx, c'est l'animal, hein, avec les petites oreilles pointues, la gueule un peu enfoncée, pas de queue, qui est un vieillard absolument couvert de plaies, de pustules, et qui se gratte avec une canne. Il vit avec une jeune fille qui prend la canne de temps en temps pour se gratter, bien que le vieux monsieur lui dise « Ah non, 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 fais pas ça, tu vas te retrouver enceinte ». Puis finalement, elle se retrouve en effet enceinte. Et comme elle est enceinte et que c'est forcément du vieux monsieur, qui a plein de pustules, etc., le village les chasse. Je passe deux ou trois épisodes du mythe. À la fin, il demande à cette jeune mère de prendre des pierres et de faire chauffer des pierres et de les mettre dans l'eau. Et puis il entre dans ce bain et il ressort, tout à fait comme chez nous, en prince beau et magnifique avec une belle peau. J'ajoute prince parce que pour redonner de l'éclat à ce personnage. Et il devient le chef du village, etc. Et celui qui l'a chassé du village, c'est Coyote. Coyote, il a une longue queue, il a le museau pointu, ils sont antithétiques. Ils sont opposés, par paire de deux. Dans l'histoire de lynx, Lévi-Strauss démontre que les paires de deux chez les Amérindiens d'Amérique, c'est toujours par paire de deux, il y a toujours X et Y opposés, lynx et coyote, etc., etc., le blanc, le noir et le blanc. Justement, figurez-vous qu'il y a dans la pensée amérindienne, avant l'arrivée des blancs, il y a une caste pour les Indiens et une caste pour les blancs. Voilà ce qu'il a trouvé. Est-ce que c'est pas génial? Voilà. Donc c'était préfiguré, voilà pourquoi la colonisation a été si facile, pourquoi on les a détruits si facilement, pourquoi l'Occident leur a pu leur transmettre toutes les saloperies qu'on voulait, les maladies, et les assassiner, et les martyriser. C'est parce qu'il y avait une place prévue pour les Blancs, dans la pensée dualiste des Amérindiens. Et je suis contente de l'avoir dit.
Et une pensée antagoniste.
Ah, ça, non, c'est pas antagoniste, il faut deux termes. Il faut deux termes opposés. Il faut deux termes opposés, puis c'est instable, et puis on va, c'est un petit peu comme Schlegel, on va de pair en pair, à travers, et puis à un moment, on tombe sur blanc et indien. Et là, ça se bloque, évidemment.
Votre réflexion va évoluer sur les pays dans lesquels vous avez vécu, y compris sur l'Inde, que vous avez tant aimé, Catherine Clément, et dont vous avez observé aussi les changements. Vous parlez d'une Inde nazie,
Je l'ai vu renaître, sous mes yeux. Ça s'est passé en 1990. Il faut quand même savoir qu'il y a eu un parti nazi. Il y a eu un nazi indien très célèbre. Oui, qui a été prendre sa carte du parti nazi en Allemagne auprès de Göring, donc c'est du sérieux, qui avait une femme allemande qui était probablement une espionne, mais peu importe, qui était un intellectuel gandhien, un peu bessasson, il faut bien dire, un peu naïf, et à qui Hitler a proposé de faire une armée nationale indienne. Une armée nationale indienne pour se battre contre les Anglais. Le mot d'ordre de Gandhi pendant la guerre, c'était « on est allié des Anglais ». On ne lâche pas l'indépendance, mais on ne se bat pas contre eux. Celui-là, il a fait le contraire. Et pour mieux prouver qu'il était bien, il a été prendre sa carte du parti nazi, ce crétin. Bon, mais ça a quand même diffusé. Et il était très anti-musulman. Il était de Calcutta. Et il est mort dans un accident d'avion extrêmement suspect, comme d'autres, comme Lin Biao en Chine. Enfin, ce sont des accidents qui sont des attentats. Et il y a toujours un culte autour de cet homme-là, qui m'horripile au plus haut point. J'ai vu d'un seul coup naître un parti nouveau, qui s'appelait le Parti Populaire du Peuple. C'est celui qui est au pouvoir en ce moment. Avec la base suivante, qu'il est en train de mettre en œuvre, c'est « Nous sommes l'Inde, pays hindou. Nous acceptons les Sikhs qui viennent de l'hindouisme. Nous acceptons les Jaïns qui viennent de l'hindouisme. Nous acceptons les bouddhistes qui viennent de l'hindouisme. Mais nous n'acceptons pas les musulmans qui ont été nos premiers colonisateurs. » Alors, ça veut dire qu'ils sont en train, et c'est ce qu'ils font, d'enlever la citoyenneté indienne à 150 millions de musulmans, qu'ils ne reconnaissent plus comme citoyens indiens. Alors, certes, il y a eu des invasions musulmanes au 8e siècle. Ça a commencé au 8e siècle. Ils ont commencé, il y a un mois, par enlever la nationalité indienne à des réfugiés du Bangladesh datant de 1971. Ces gens-là sont entrés en Inde en 1971 comme réfugiés. Et on leur enlève la citoyenneté indienne en 2019. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ça commence à ressembler au traitement des Rohingyas par les Birmans, par la Birmanie. Oui, j'appelle ça nazi. Je sais qu'il y a une racine nazie puisqu'il y a Göring dans le paysage. Donc je sais bien que c'est ça.
Catherine Clément, cette Inde nazie, vous l'opposez à une Inde des Lumières. Alors, qu'est-ce que vous mettez derrière l'Inde des Lumières? Est-ce que c'est l'Inde de Gandhi?
Évidemment, l'Inde de Gandhi. Ce type qui était un disciple de Gandhi et qui a été prendre sa carte du parti nazi. Subhash Chandra Bose, surnommé Netaji. Tout le monde l'appelle Netaji. Il a été président du Congrès après Gandhi. Donc, c'est un Gandhien. Gandhi, qu'est-ce qu'il faisait quand il était en Inde? Il avait toujours trois livres sur lui, très visibles. Le Coran, les évangiles et la Gita, la Bhagavad Gita, la prière du matin. Voilà, jamais les uns sans les autres. Le Coran, la Bhagavad Gita et les évangiles. Donc c'était quand même foncièrement quelque chose qui était, on appelle ça œcuménique, mais c'est rassembleur. C'est comme ça qu'il a évité des massacres. Il évitait des massacres autour de Calcutta, au Bengale, dans un bled qui est maintenant au Bangladesh, et qui s'appelle Noakhali. Il y avait des massacres intercommunaux entre musulmans et hindous. Il allait dans une maison X musulmane. Il disait, est-ce que je peux passer la nuit? Oui, oui, tu peux passer la nuit, t'as un Coran, tu peux passer la nuit. Je passerai la nuit, mais je veux que ton voisin hindou vienne passer la nuit avec moi. Et il y arrivait. Et il a fait cesser des massacres toute sa vie comme ça. Ça me paraît différent de retirer la nationalité aux gens, voire de les tuer. Quand j'ai vu un pèlerinage, et j'ai gardé mes archives de presse, un pèlerinage dans lequel le fondateur de ce parti, Lal Krisha Advani, était dans un lotus, une voiture, enfin, un van transformé en lotus. Et dans le lotus, il a pèleriné de Delhi jusqu'à Ayodhya, où il y a eu des batailles sanglantes entre yogis et musulmans autour d'une mosquée. Ça existe toujours, ce problème. C'est un problème actuel. Et tout le long du chemin, j'ai noté le nombre de musulmans qui étaient tués. Eh bien, ça fait un paquet. Au passage du pèlerinage. Quand je vous dis que les pèlerinages en Inde, c'est mauvais, je sais ce que je dis.
Catherine Clément, depuis que vous avez cessé d'y vivre et depuis que vous avez cessé de vivre aussi à l'étranger, vous avez, jusque dans les années 2000, fait régulièrement des allers-retours pour l'Inde.
Oui.
Et ça a cessé?
Bon, j'ai 81 ans, donc je n'ai pas très envie de m'embarquer dans un... C'est devenu difficile de prendre l'avion. Les derniers voyages que j'ai faits en Inde, je les ai faits dans le système que j'appelle la Reine Victoria, c'est-à-dire en chaise roulante. Ça, ça va. Mais même en chaise roulante, retourner à l'heure actuelle... j'ai refusé des choses au Premier ministre de l'Inde quand même. Hein. Il voulait que j'écrive un texte sur Gandhi. J'ai dit d'accord, volontiers, un texte sur Gandhi et les musulmans. Ah non! Ah non! Bah non, je ne reviens pas là-bas. J'y vais plus.
Parce qu'il refuse que vous parliez
des musulmans. Il refuse que j'écrive sur Gandhi et les musulmans. Mais vous vous rendez compte?
Vous travaillez aussi sur des grandes figures. On parlait des mythes tout à l'heure. Vous avez aussi travaillé sur les sorcières.
Oui.
Et vous travaillez encore sur les sorcières, ah, Catherine,
oui, oui.
Clément?
Bah, c'est-à-dire que j'ai commencé à travailler sur les sorcières avec Hélène Cixous en 73 ou 74. Dans ces eaux-là, on a fait un livre ensemble qui s'appelait « La jeune née ». Hélène a fait son texte, je crois que c'était « Le rire de la méduse ». Mais j'en suis pas si sûre. Et moi, j'ai fait un texte sur les sorcières. Et puis, j'y suis revenue quand j'ai vu qu'on y revenait. Et que maintenant, sorcière, c'est comme la Légion d'honneur. Hein. Si j'avais sorcière sur un PIMS, ça serait pareil. C'est aussi décoratif et aussi prestigieux.
Qu'est-ce que vous voulez dire?
Que maintenant, se déclarer sorcière, c'est un plus. Quand j'ai écrit la première fois, c'était le moment où Xavier Gauthier avait fondu la revue Sorcière, bon, c'était pas positif comme terme.
Mais il y avait Michelet, il y avait ce travail-là qui avait été fait sur
ne
les sorcières.
Ne me parlez pas de Michelet, il est horrible. Il est horrible. Horrible, ce mec. Parce que je ne sais pas si j'aurai le temps d'expliquer pourquoi il est horrible. Mais enfin, il n'est vraiment pas humaniste dans les sorcières.
En tout cas, ce n'était pas positif, les sorcières. Et maintenant, ça l'est. C'est ça que vous dites.
Et maintenant, ça l'est grandiosement. Donc, j'ai été me penser dans un secteur très délimité sur l'histoire des sorcières et des chasses aux sorcières en France à partir du moment où il y a un traité de l'Inquisition qui s'appelle le Maleus Maleficarum, le marteau des sorcières. Ça paraît en 1486 à Strasbourg. Et les vraies chasses aux sorcières en France, elles sont au XVIIe siècle. Je ne sais pas qu'il n'y en ait pas avant, hein, mais c'est que le dernier chasseur de sorcières, c'est Henri IV, il ne le fait pas exprès, mais enfin, l'année d'avant sa mort, l'année d'avant son assassinat, il demande à un conseiller du Parlement de Bordeaux d'aller brûler des sorcières au Pays Basque. Et le conseiller en question étant un grand écrivain, qui s'appelle Pierre de Lancre, et qui est un français magnifique, on a ça, on l'a en facsimilé, vous savez, avec plein de F partout. Le roi, avec des F de l'ancien français. Mais quand même, ce type, il est arrivé à brûler 80 personnes au Pays Basque sur les accusations suivantes. Il arrive en juillet. En juillet, les maris sont partis à la pêche à la baleine. Donc, les femmes sont seules.
Ça, c'est un premier critère?
Oui, les femmes sont seules. Et elles osent sortir de la maison. Deuxième critère, elles ont les cheveux dénoués. Ça se fait pas. Ah mais oui, il l'écrit comme ça. Troisième critère, je suis sûr que vous n'allez pas me croire. Elles mangent des pommes. C'est un pays de pommiers, elles mangent des pommes. C'est écrit comme ça, la phrase. C'est un pays de beignets, donc elles mangent des pommes. Donc elles sont comme Ève, et voilà. Ève, c'est comme Vénus, donc il faut les brûler. Et je ne sais plus quel était le quatrième critère. Ah oui, elles se baignent dans l'eau. Et l'eau, c'est mauvais. L'eau de l'océan, c'est mauvais. Pourquoi ? Parce que Vénus est née dans l'eau. Vous voyez le niveau ? Mais c'est très bien écrit.
Mais c'est chargé de mythes, au final, de superstitions.
Oui, mais ça fait 80, mais ça fait 80 mortes, quand même, par le feu. Alors, l'année d'après, au Pays Basque espagnol et en Navarre, il y a 5000 accusés, énormément de juges. Il y a un des juges qui se dit « c'est pas possible, cette histoire ». Et puis, finalement, à l'arrivée, il y a 11 morts, dont 6 qui étaient déjà morts dans leur prison. Reste 6. Il y a 6 exécutions. Et tous les autres ont été graciés par l'Inquisition de Madrid qui dit « ce ne sont pas des juifs, on s'en fout, laissez tomber ».
Catherine Clément,
ça commence comme ça, le livre. Après, on voit apparaître la Vierge Marie comme une sorcière inversée. J'explique ?
Ça se tient, bah oui.
Voilà. Bah oui, mais c'est absolument la démonstration que je fais, et ça tient encore tout à fait maintenant. Mais saviez-vous, par exemple, que on est sous la Troisième République, et Monseigneur, je ne sais plus comment il s'appelle, l'archevêque de Paris célèbre une messe. On doit être en 1855, puisque le dogme de l'Immaculée Conception est promulgué en 1854, et qu'un curé parisien, un peu dingue, prend un couteau et va poignarder l'archevêque en disant « À bas la déesse !» La déesse, c'est la Vierge. Et celui-là, il avait tout compris.
Ah, pourquoi il avait tout compris ? Parce que...
Parce qu'il a bien compris que la Vierge Marie, c'était le retour du paganisme et des sorcières inversées. Mmh. Voilà, c'est assez simple. Mais ce qui est intéressant, c'est le traitement des enfants qui voient les vierges. Parce que les garçons, ça va, mais les filles, elles sont rouées de coups d'abord. Enfin, vous verrez, vous lirez. Le traitement des voyantes qui ont vu la Vierge, c'est ça le mal qu'on fait aux femmes. C'est pas à la Vierge, c'est le prétexte pour faire mal aux filles. Bernadette Soubirou, Marie-Bernard Soubirou plutôt, rentre chez elle, elle dit qu'elle a vu un truc blanc, avec une ceinture bleue, et que c'est peut-être une petite fille, et la voisine... La tape avec des coups de bâton. Le lendemain, dans son école, elle répète la même chose. Et la mère supérieure de son école, c'est les toutes nouvelles écoles pour filles, hein, ça vient juste d'arriver, lui flanque une paire de gifles. T'as pas bientôt fini avec tes carnavalades, et etc. Après, c'est le commissaire de police. Après, c'est le procureur du roi. Et ça continue, et ça continue. Et ça continue jusqu'à la fin de sa vie. Non pas qu'on ne la reconnaisse pas, mais une fois qu'elle est reconnue, elle est isolée, grignotée. Par exemple, le dernier échange, elle est dans un couvent qu'elle a choisi à Nevers pour être loin de Lourdes. Bon, elle a fait son noviciat, c'était une petite paysanne qui ne savait pas écrire, donc elle commence à savoir écrire. La supérieure et l'archevêque du coin ont mis au point un scénario pour qu'elle reste à Nevers, parce que normalement, après son noviciat, elle devrait aller dans une autre région. Alors ils ont mis au point un scénario, mais ils ne l'ont pas informé du scénario. Donc l'archevêque pose la question... Sœur Marie Bernard, qu'est-ce qu'on en fait ? Il est convenu, et ça se passe, que la supérieure répond « Elle est bonne à rien ». Et à ce moment-là, l'archevêque dit « Alors, on ne la met nulle part ». Ce qui veut dire « Elle reste ici ». Mais ils ne l'ont pas prévenue. Donc elle a entendu ça. C'est le dernier épisode, ça.
Catherine Clément, est-ce qu'on peut dire que, finalement, dans ce long parcours... de pensée, mais aussi d'expérience de l'étranger et d'expérience intellectuelle.
Est-ce Attendez, j'espère qu'il n'est pas fini. Hein.
Non, bien sûr. J'ai pas utilisé le passé. Est-ce qu'on peut dire que c'est le mythe, finalement, qui a été le fil conducteur à la fois de vos lectures? Alors, Lévi-Strauss a dit, vous êtes ethnologue. Alors,
il a fini par me dire ça. J'étais très confuse qu'il me dise ça. On n'était que deux. Hein. Il n'y avait pas de témoin. Je ne sais pas s'il l'aurait dit devant témoin. Je ne crois pas. Mais enfin bon, il m'a dit ça, oui, que j'étais ethnologue. Non, je crois que c'est l'accès direct à Dieu, à ce qu'on appelle Dieu. C'est l'accès direct au divin et les dégâts qu'il fait depuis toujours et encore plus maintenant.
Mais la question du mythe qui finalement est le premier livre de l'enfance, c'est le livre avec lequel vous apprenez à lire
c'est
qui vous suit.
C'est trop intello ce que vous me dites là. C'est trop intello. C'est un machin qui passe par un livre écrit, par tout un tas de raisonnements qui sont les raisonnements de l'intelligentsia française, de ce que Jean-Claude Milner appelle la petite bourgeoisie intellectuelle, mais je ne suis plus là-dedans, moi. C'est le rapport direct à quelque chose qui est au-dessus, unique ou pas, et qui fait des dégâts, qui tue, qui fait agir les hommes en s'entretuant. C'est pas le mythe, parce que le mythe, c'est une partie de la chose. Les trans, c'est pas mythique. Les trans, on est dedans. Ben, les trans, c'est un accès direct. C'est très intéressant, les trans. J'ai écrit des livres sur la trans, beaucoup même. Hein. C'est l'accès direct. Donc, c'est pas, j'ai pas besoin forcément du mythe. J'en ai grand besoin de temps en temps, mais pas tout le temps.
Ce qui vous intéresse dans le rapport direct au Dieu,
c'est pourquoi ça fait tant de mal.
Pas dans le rapport direct.
Mais si, ça enclenche la suite. Ça enclenche la suite. Comment est-ce que quelque chose de, qui a l'air aussi bien, qui a l'air de procurer autant de plaisir, qui fait visiblement jouir sexuellement un certain nombre de femmes, comment ça se transforme en massacre? Toujours. Dans toutes les religions. Même le bouddhisme. Pas oublier qu'elle est bouddhiste, Suu Kyi, la prix Nobel de la paix. Hein. Pour ceux qui croient que le bouddhisme, c'est la non-violence absolue, je rappelle que celle qui dirige la Birmanie s'est rendue coupable d'un génocide sur les Rohingyas.
Finalement, cette réflexion-là, sur le rapport direct, est-ce que c'est un retour à la réflexion sur la Shoah, sur son origine?
Oh, je pense que oui. Bien sûr, je pense que oui. Je pense que si ça a pu advenir, ma mère était convaincue que ça recommencerait. Moi, je suis moins convaincue que ça recommencera comme ça avec des chambres à gaz, parce que c'est quand même les chambres à gaz qui marquent. Mais ce que j'ai découvert en Inde, c'est qu'on peut faire 3 millions de morts avec les épidémies, les couteaux, les fusils, n'importe quoi. Je me souviens comment j'ai découvert que les Indiens intellectuels, professeurs de religion, ne connaissaient pas la Shoah. Ça, c'est une drôle d'histoire. Je les avais tous invités à la résidence de l'ambassadeur et de moi pour une séance de réflexion sur la philosophie et l'enseignement de la philosophie. En Inde, à l'époque, la philosophie, c'est l'histoire des religions. Donc il y avait le professeur de bouddhisme, le professeur de jainisme, le professeur de ceci, cela, et un disciple d'Hannah Arendt qui faisait de la logique. Bon, disciple d'Hannah Arendt, il ne s'est pas beaucoup manifesté. Puis on parle de la Shoah, ils en parlent très tranquillement. Ils disent oui, on sait, nous aussi on a eu des massacres. Mais très tranquillement. Si tranquillement, je finis par poser la vraie question, je dis, vous savez comment ils ont été tués, les millions de juifs? Et ils me répondent tous, au couteau. Il y en a un qui répond au fusil. Et le disciple d'Anna Arendt, tous, beaucoup. Très embêté. Et donc, les chambres à gaz, ils ne connaissaient pas.
Et vous dites que c'est la liste de Schindler qui a parlé de la Shoah en Inde.
Oui, béni soit la liste de Schindler. Le film de Spielberg,
Le film de Spielberg qui va faire connaître... en détail, l'histoire de la Shoah.
Alors que dans le film de Schindler, il n'y a pas de vraie chambre à gaz. C'est ça qui est tout à fait stupéfiant. Ils ont quand même compris quelque chose. Là, j'ai bien vu que tous mes amis indiens qui n'avaient pas réalisé, je leur ai raconté 1000 fois, mais ils ne réalisaient pas. Et le film a été plus fort que tous les raisonnements. Il leur a montré que oui, les chambres à gaz avaient existé, alors même qu'il n'y en a pas une seule dans le film. Mais ils ont compris l'ampleur de la persécution. Je pense que c'est à cause du manteau rouge de la petite fille.
Merci Catherine Clément, merci, c'était notre dernière émission.
Merci Maëlys. Bonsoir.
Bonsoir.
Fin de cette rencontre de Maëlys Bessery avec Catherine Clément. À voix nue, réalisation Nathalie Salle. Prise de son, Yves Lehorse. Attaché de production, Daphné Abgral. Coordination, Sandrine Trainer. À voix nue se réécoute et ce podcast sur franceculture.fr.